pour l'amour de mon pays, je me mettrai un point. Est-ce que vous aimez votre pays? Sûr. Moi, je l'aime énormément. Parce que c'est elle qui m'a, c'est ce pays qui m'avait accueilli quand je naissais. Et c'est ce pays qui a fait de moi ce que je suis. Et c'est ce pays qui va me recueillir, même quand je serai la sainte, en attendant la résurrection. Amen. Amen. Et personne ne peut monter ça. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le point de chute d'une semaine bien remplie que nous avons consacrée à part à Goma Ouest. Une semaine consacrée à la prière et dont le thème, c'est ce que je viens de vous annoncer. Pour l'amour de mon pays, je n'ai pas cette obligation-là de me taire. Semaine de prière à la fois, une semaine de déception. Comment ça peut être ensemble? Alors que nous étions tous unanimement d'accord que le Seigneur veut faire éclore quelque chose de nouveau et quelque chose de neuf, voilà qu'un communiqué de report des élections va être donné, un report d'une semaine. Et déjà avec ce communiqué-là, on commençait à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a une semaine? Non, ça doit être un mois, une année et des années. On nous a donné des raisons de ce report, valables ou non, mais quand même des raisons d'être avancées. Et alors que nous étions de plein pied dans la semaine de prière. Et dans tout cela, nous nous posons la question en tant que peuple congolais, mais pourquoi tout ça? Est-ce que Dieu ne nous écoute plus? Est-ce que Dieu a continué à trôner sur ce trône de grâce, voyez le trône de grâce, pour que nous puissions voir les changements s'opérer dans notre pays? Et alors, il y a des questions. Devons-nous nous taire quand le combat est mené par deux camps qui ont des forces quasi inégales? Il y a le camp de ceux qui sont très forts et le camp de ceux qui semblent être faibles. Et nous nous posons la question, et je me pose à moi-même la question, quelle attitude dois-je toujours avoir devant un pouvoir qui a confisqué, et l'officiant ou le président du culte l'a dit, qui a confisqué et qui a pris en otage tout un pays de plus de 2 millions, combien? 345 000 km². Et pris par un cacique. Et avec une population de plus de 80 millions, juste une classe donnée à qui nous prend en otage et qui nous confisque la vie. Et devant ce pouvoir qui est déterminé à nous asservir, nous peuples congolais, et qui nous fait courber par sa manière d'exercer son autorité, qu'est-ce que je dois prendre comme attitude? Et la parole de Dieu me dit, pour l'amour de mon pays, je ne ferai pas quoi? Je n'ai pas le droit. Mes chers, vous n'avez pas le droit. Aucune personne n'a le droit de se reposer. Non. Que ce soit en Ésaïe 62 et que ce soit en Jérémie 29, le peuple d'Israël est en exil en Babylone. Même si du point de vue temporel, la prophétie d'Ésaïe et la prophétie de Jérémie ne s'étaient pas dites à la même période, même s'il y a cet espace de temps, mais ça nous raconte une chose qui est arrivée dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est qu'ils ont été en captivité à Babylone. La situation n'était pas du tout facile. C'est là qu'il y a eu même des psaumes qui ont été chantés. Comment chanterions-nous un cantique sur une terre étrangère? Ils vivaient une situation pénible, le peuple d'Israël. Ils vivaient une situation très, très désagréable. Et alors, dans le livre d'Ésaïe, parce que c'est par là que nous avons commencé la lecture, le prophète demande et attend la délivrance de Yahvé. Il demande, ou plutôt il invite les fidèles à ne pas laisser de repos à Dieu et à eux-mêmes de ne pas prendre du repos jusqu'à ce que la réponse de Dieu soit là. Alléluia. Nous ne devons pas laisser Dieu prendre le repos par rapport à notre pays. Vous allez dire, mais nous allons l'obliger. Mais alors, s'il s'agit de ce qui est dans notre cœur et que nous voulons répondre devant Dieu, pourquoi pas? Et savoir que sa volonté est là et elle l'accomplit à son temps. Voilà ce que le Seigneur nous demande à nous Congolais ce matin. Il y a cette période difficile et désagréable.
est d'accéder sans répit, est d'accéder sans relâche, jusqu'à ce que la délivrance de notre pays, jusqu'à ce que la délivrance du peuple congolais soit effective et soit une réalité. Alléluia. Amen. Tant que la délivrance de notre pays et celle du peuple congolais ne sera pas effective, jamais je ne pourrai avoir du repos. Et non plus, je ne pourrai pas laisser à Dieu d'avoir le repos. Et alors, on se pose la question, pourquoi ne pas laisser de repos à Dieu? Pourquoi? Mais parce que le Seigneur a promis de rétablir le pays comme il a rétabli Jérusalem. Mais parce qu'il a promis faire de notre pays les sillons de quoi? De sa majesté. Les sillons de sa majesté. Il veut faire de notre pays son sanctuaire. Pas ce sanctuaire où on dit que voilà, il vient dormir la nuit pour nous protéger et il se réveille le matin pour aller vaquer à d'autres choses. Et des fois, j'entends dire ces choses-là dans les bouches de certaines personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre Dieu qui est capable de restaurer tous les pays qui passent par des moments de décomposition avancée comme notre pays. C'est lui qui sauve le peuple. Et le peuple qui sont esclaves d'un pouvoir quelconque, et c'est lui qui donne à ce peuple-là la liberté comme il en a fait pour Israël. Israël était asservi en Égypte. Et la parole de Dieu que le président du culte nous a conduit à lire, c'était Exode. Il a commencé avec le cantique qu'ont chanté Moïse et les autres. Et il est revenu sur Exode 14, où Dieu lui-même s'est dit, voilà, je viens moi-même vous délivrer et je combattrai pour vous et vous ferez quoi? Vous garderez le silence. Et le silence, la question, ce n'est pas pour être là silencieux. Mais le ténèbre a déjà dit, nous allons garder le silence. Non, non. C'est que la parole de Dieu nous pousse à l'action. Amen. Notre Dieu est le Dieu de serment. Il est le Dieu qui a fait serment avec son peuple. Il est le Dieu de la promesse. Il tient le serment qu'il fait en faveur de ses enfants. Comme il a fait le serment à que la délivrance vient de lui. Ne le laissons pas alors à état de repos. Continuons à assaillir son trône de grâce. Jusqu'à ce que nous soyons au bénéfice de la grâce qu'il veut répandre en délivrant notre pays et en délivrant son peuple pour lui donner une vie de liberté. Comme Esaïe était jaloux du salut de Dieu, du salut de Jérusalem, autant nous devons être jaloux de notre pays. Nous devons l'aimer au point de ne pas nous taire en sa faveur. Nous avons cette obligation-là de ne pas nous taire en sa faveur. Et en tant qu'intercesseur, nous devons revendiquer le nouveau nom à qui Dieu veut donner à notre pays. Donner un nouveau nom, cela veut dire quoi? En fait, c'est lui donner une histoire. Quand le Seigneur s'engage à te donner un nouveau nom, c'est qu'il veut te donner une nouvelle identité. Alléluia. Quand le Seigneur s'engage à te donner un nouveau nom, c'est qu'il veut te donner une nouvelle destinée en tant que pays. Et c'est ça ce que nous lisons dans Esaïe. Et c'est au verset 2. Alors les nations pourront venir. Comment justice t'aura été faite? Et tous les rois contempleront ta gloire. On t'appellera comment? D'un nouveau nom. Que l'Éternel fera quoi? Te donnera. C'est l'Éternel qui veut donner un nouveau nom à notre pays. Il veut s'impliquer, comme il a toujours fait, jour après jour, il veut construire l'histoire de notre pays. Il veut donner à notre pays une nouvelle identité des bien-aimés. Et ce nouveau nom que le Seigneur va donner à notre pays, c'est le résultat de notre action. Alléluia. C'est le résultat de l'action que toi tu fais, que toi tu poses, quand, là où tu es. Il s'agit de quoi cette action-là? C'est l'intercession. L'intercession. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'intercession qui transparaît comme mon action à faire pour que mon pays soit restauré, pour que mon pays soit délivré et pour que son peuple vive encore en liberté. Et c'est ce qui transparaît dans Jérémie au chapitre 29. Vous avez besoin de vous rappeler que, encore une fois, Israël est en exil. Et alors Jérémie lui-même écrit aux exilés en leur recommandant de poursuivre cette activité-là, en leur recommandant de poursuivre ce qu'ils ont à faire. Et si vous lisez les versets qui précèdent, et vous trouverez là quelque chose d'assez fabuleux, quoi. Parce que là, nous sommes au chapitre 29, verset 7. Mais si vous commencez à partir du verset 4, il est écrit, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville. » Voilà ce que le Seigneur demande. Ce qu'il a demandé aux exilés, que nous devons poursuivre toutes les activités que le Seigneur nous demande de faire et de prier et pour la nation idolâtre, a-t-il dit aux exilés. Prier pour la nation idolâtre et une nation qui a servi le peuple d'Israël. Vous imaginez ce que ça doit faire comme un choc, comme un homme de choc, oui, dans la vie des exilés, des enfants d'Israël. Mais juste Dieu voulait leur rappeler une chose, c'est que la vie ne peut pas s'arrêter pendant les périodes difficiles. La vie ne s'arrête pas avec Kabila. Elle va continuer. La vie ne s'arrête pas avec qui que ce soit. J'ai beaucoup aimé quand il y a des jeunes et des jeunes qui se disent que nous aussi, on veut apporter du nôtre pour le changement. Et pasteur, impose-nous les mains. Merci pour cet acte de foi. Et merci, pasteur, d'avoir accepté aussi cet acte de foi pour que ces jeunes puissent être accompagnés. Vous avez notre accompagnement. Et merci d'avoir placé ça sur votre cœur, que vous voulez apporter quelque chose. C'est que vous voulez que les choses changent. Et alors, revenons encore sur ce verset ici, pour dire quoi? C'est comme si Dieu nous demande de nous adapter à des situations difficiles. Même s'il nous demande de nous adapter à des situations difficiles, mais il nous demande aussi que dans notre adaptation à ces situations-là, nous devons être à même de poser des actes de résistance. Et poser des actes de résistance par nos attitudes et notre comportement. Nous ne devons pas accepter du n'importe quoi. Et nos attitudes ne doivent pas être des attitudes de passivité pour dire que ça a commencé depuis une génération et ce n'est pas à nous de faire le miracle. Nos attitudes ne doivent pas être des attitudes d'irresponsabilité pour conduire aussi notre histoire. Nos attitudes ne doivent pas être des attitudes d'indifférence et de montrer comme si la chose ne nous concerne pas. Notre attitude doit être une prise de conscience à que de questions de la cité. Maintenant là, je veux parler à langage politique parce que je grignote aussi là-bas. Même si je ne me suis pas mis à genoux. C'est un monde qui m'intéresse aussi. Que la question de la cité, je dis bien que je veux parler à langage politique. La cité, ce n'est pas la cité de Goma. La cité vient d'un concept, oui, grec, qui s'appelle polis, qui veut dire, qui a donné le mot politique. C'est que la question de la politique, la question de la cité, nous concerne au plus haut niveau dans notre vie. Parce que notre vie en dépend. Vous connaissez cette maxime populaire, n'est-ce pas? Qui dit quoi? Si tu ne veux pas t'occuper de la politique, elle est prête à s'occuper de toi. Si tu veux que la politique te fasse courber, mais vas-y, adopte juste une attitude d'indifférence vis-à-vis d'elle. Et tu vas comprendre maintenant sur le tard combien cette politique t'a fait courber. Jérémie nous rappelle que cela nous concerne, mes bien-aimés. Ça nous concerne, je l'ai dit bien. Et le pasteur, notre pasteur a l'habitude de dire que ça te concerne jusqu'à un plus haut niveau. Nous n'avons pas les droits. Nous n'avons pas les droits de faire pourrir ou bien de laisser pourrir une quelconque situation politique devant nos yeux. Non, le prophète Jérémie ne nous l'autorise pas. Et Dieu, par le prophète, il ne nous l'autorise pas. Par contre, ce dans lequel il nous engage, c'est que nous devons agir. Nous devons mener des actions par les attitudes que nous devons prendre. Pas d'indifférence, pas de passivité, pas d'irresponsabilité. Mais alors, l'attitude que nous devons prendre, c'est la recherche de quoi ? Du bien de la ville. C'est la recherche du bien de la politique. La recherche du bien. C'est que c'est quelque chose que nous ne devons pas. Oui, faire quoi ? Prendre une fois pour toutes, c'est dire que nous sommes déjà arrivés. La recherche, c'est de chercher à nouveau, n'est-ce pas ? Chercher à nouveau. Et donc, c'est une démarche qui ne pourra pas se terminer. C'est jusqu'à ce que Jésus-Christ vient prendre son église. La recherche du bien de la cité, qui veut dire que nous devons prendre conscience, mes bien-aimés, que la politique existe, que les pouvoirs politiques existent, et que ce pouvoir politique peut faire du tort aux gouvernés. Et si nous prenons conscience que ce pouvoir-là peut faire du tort aux gouvernés, c'est qu'absolument nous devons construire en nous d'autres attitudes et un autre comportement. Chercher le bien de la ville, c'est avoir des attitudes de retenue quand nous voyons que les intérêts de la ville sont en train d'être menacés par un pouvoir, et un pouvoir qui est devenu fou. Et un pouvoir qui a fabriqué à lui-même des réflexes de provocation et d'irritation. Je dois vous rassurer, même si j'aime bien ce monde-là, les politiques ont la capacité de nuisance qui est surélevée. Ils sont capables de vous nuire. Parce qu'un politique, il n'est pas de cadeau qu'on s'offre. Il n'y a que de coups de pied à qui se passe là-bas. Ils sont capables de provoquer des situations désagréables ou des situations pénibles qui peuvent conduire à la catastrophe. Et c'est ça le propre, oui, des autorités politiques. Les dirigeants politiques, depuis la nuit des temps, sont habités par des sentiments de perversion. Et là, je ne vais pas faire peur aux jeunes qui ont été consacrés à pour donner de l'heure dans cet espace politique. Et nous voudrions que ça change. Mais je vous montre juste à que cet espace, combien il est infecté par les sentiments de perversion. Et l'histoire nous renseigne que beaucoup, peut-être pas tous, sont habités par les sentiments de perversion. Athénée, par exemple, juste pour la petite histoire, au 1er siècle, après Jésus-Christ, il y a un empereur romain qui s'appelle Néron et qui a fait brûler une partie de la ville de Rome et attribuant le forfait aux chrétiens. Et cet exemple n'est pas loin de nous. Le jeudi 13 décembre, un jeudi noir pour le peuple congolais, et ce peuple apprendra, il a vu sur les réseaux sociaux un entrepôt en train de cramer et de prendre feu. Vous pensez que c'est comme dans des films, quoi, alors que c'était la réalité. Et on nous apprendra que tout le matériel et les véhicules qui étaient à l'extérieur ont cramé. Ils sont devenus de la cendre et les véhicules de carcasse. Même les véhicules qui étaient un peu éloignés de l'entrepôt te posent la question, comment qu'il y a des étincelles qui ont sauté jusqu'à faire cramer les véhicules. Première réaction, vous le connaissez, vous savez, c'est quelle était la réaction. Oui, c'est un membre de l'opposition qui est candidat à la magistrature suprême et qui va campagner, c'est lui qui a commandité cette incendie. Voilà. Les dirigeants politiques pervertis savent bien irriter la population pour jauger la réaction de cette population-là. Et Jérémie nous invite à la retenue, à la recherche de quoi ? De la paix. À la recherche du bien de la ville dans laquelle Dieu nous a placés pour continuer à les glorifier. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas porter des gilets jaunes comme dans un pays à démocratie très très avancée. Mais vous savez bien, vous regardez que ces gilets jaunes ont fait des dégâts énormes. Et le comble de tout, c'est encore qu'ils vont payer à ce qu'ils ont causé comme dégâts. Parce que c'est à travers les taxes qui leur seront imposées qui vont payer tout ça. La retenue, mes bien-aimés, c'est parmi les armes que nous pouvons aiguiser pour faire barrage aux réflexes d'irritation qui sont les propres du pouvoir tel qu'il est vécu et exercé dans notre pays. La retenue, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une attitude d'indifférence, mais la retenue, c'est une attitude qui peut désarmer la puissance des dirigeants pervertis. Parce qu'il y a une irritation. Et quand on les laisse tomber dans leurs propres pièges, ils sont abasourdis, ils sont étonnés. Deuxième attitude de le Jérémie, c'est l'intercession. Et à faveur de ces dirigeants qui sont pervertis. Et alors quand j'ai médité autour de ce texte, mes bien-aimés, je me suis dit, Madame Mungu, on a trop bâillé qui quoi l'eau. Parce que la tendance humaine ne nous apprête pas pour intercéder à faveur des dirigeants qui sont pervertis, et surtout si les pouvoirs en question sont en train de nous asservir. Prier à faveur des dirigeants pervertis n'est pas donné naturellement comme je viens de l'indiquer. Nous aimons bénir à ceux qui nous font du bien, n'est-ce pas? Et la tendance naturelle, c'est de maudire ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font du tort. Mais le Seigneur nous invite à un devoir sacré. Et notre pasteur, dans la prédication du dimanche dernier, il nous a dit ceci, que prier pour notre pays et pour ses dirigeants, c'est quoi? C'est un devoir qui est comment? Sacré. C'est que vous ne pouvez pas vous dérober de cela. C'est un devoir sacré que de prier pour le pays et ses dirigeants. Et nous, pendant toute la semaine, il a été un rappel pour nous de prier pour le pays et ses dirigeants. Et même jusqu'à ce matin, nous continuons à prier. Et au cours de la semaine de la prière, nous avons demandé à Dieu de faire barrage au plan plan machiavélique et diabolique qui ont été montés ou qui sont montés sur le plan national qu'international et qui sont de nature à déstabiliser notre pays à tout point de vue. Nous avons prié pour le peuple congolais, nous avons prié pour la tenue des élections, pour la délivrance de notre pays. Nous avons prié pour la CENI et tous les organes qui sont comme des appuis à la démocratie au Congo. Nous avons prié contre toutes sortes de menaces manifestées contre notre pays. Nous avons prié à faveur de la paix. Nous avons pris position par rapport aux complots qui sont montés contre le Congo et le peuple congolais. Nous avons prié pour les candidats à la magistrature suprême, à la députation nationale et à la députation provinciale, et pour bien d'autres sujets comme la paix, la stabilité politique, économique et sociale, oui, comme la bonne gestion de richesses dans notre pays. Nous avons pris position contre les antivaleurs, le clientélisme, la corruption, la tricherie, les viols. Et à première vue, ça paraît drôle que prier pour des situations aussi perverties comme celle que nous venons d'évoquer. Et d'aucuns posent la question, mais la prière est-elle une action? N'est-ce pas que la prière n'est-elle pas une action faible pour faire bouger les choses? C'est très faible quand même. Et que nous puissions dire, et que le président du Guide nous dise, inclinons-nous dans la prière et nous allons prier. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez quand vous vous inclinez dans la prière? Et que vous priez le Seigneur? Voyez que ça va changer? Sûr? Sûr? Le Seigneur attend. Alors hier, je faisais un peu une promenade descendant dans le quartier Keshev vers le stade Sotraki. Et là, je suis rentré dans la maison d'un couple de la chapelle Goma Ouest. Et j'ai croisé une dame qui a une certaine ombre dans la CBK. On a commencé à parler de la situation de notre pays. Et vous savez bien que depuis un certain temps, ce qui est au cœur de nos entretiens, que ce soit en famille, que ce soit dans l'avenue, que ce soit dans la rue, ou que nous puissions nous placer, ce qui est à l'ordre du jour, vous connaissez bien, c'est la situation de notre pays. Et cette dame, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, m'a dit, pasteur, j'ai dit à mes mamans, vous ne voyez pas que la prière est une arme faible pour changer la situation de notre pays? J'ai dit, ne faudra-t-il pas utiliser une arme beaucoup plus forte qui est la violence, pour changer les choses. Et je la regarde, et dans mon cœur, je dis, elle peut avoir raison. Là, j'ai parlé à ma mère, c'est pour cela que je laisse la parole. Qui c'est? Elle peut avoir raison. Et je lui ai dit que, oui, la tendance naturelle peut voir que la prière est une arme faible, mais nous devons reconnaître et nous devons poursuivre et cela en priant. Parce que la prière, même si on peut apparemment lui reconnaître que c'est une arme faible, mais elle est puissante car ses effets sont incommensurables. Alléluia. Elle est puissante que quand elle produit des effets, et personne ne peut arrêter ces effets-là à court, moyen et à long terme. Amen. Ces effets sont puissants. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est au cœur de l'épreuve et c'est au cœur de quoi? De changements perturbés et perturbants que le Seigneur nous demande de prier avec zèle. Le Seigneur nous invite à continuer à prier. Et pour l'amour de notre pays, nous ne devons pas nous taire. Au lieu d'abandonner à cause de la peur et à cause de l'incertitude, comme nous venons de l'écouter à travers le témoignage que la peur peut nous paralyser, mais nous n'avons pas le droit de nous laisser être paralysés par la peur, parce que nous plaçons notre confiance dans les dieux qui est capable de transformer même des situations qui sont bouchées. C'est maintenant, mes bien-aimés, le temps d'aller de l'avant, en faisant notre possible, en implorant la délivrance de notre pays auprès de notre Dieu. Devant nous, je le sais, et le Seigneur voit, se dresse beaucoup de défis. Mais continuons à prier Dieu pour que la tenue effective des élections, que les résultats des élections et que la période post-électorale soient en notre faveur. Et face à ces défis, nous n'avons pas le droit d'avoir du répit. Nous ne pouvons pas laisser à Dieu du repos, nous dit la parole de Dieu. Pas de repos, tant de la part de notre Dieu que de la part de nous en tant qu'intercesseurs. Nous devons monter d'ardeur. Nous devons être percutants dans la prière, car la lutte continue. La lutte n'est pas encore gagnée, mais aussi rendre grâce à notre Seigneur pour la victoire certaine qu'il veut nous donner chez tous nos aînés. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.